RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine avec le quotidien La Croix et en co-diffusion avec Radio Notre-Dame. C'était il y a 30 ans, au printemps 1994. Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda a constitué un événement majeur, peut-être l'événement majeur de la fin du XXe siècle. Sans doute aujourd'hui n'avons-nous pas encore pleinement pris la mesure de cet événement. Ce génocide continue quand même de nous hanter, de hanter les consciences. Au long de ces 3 mois d'un bref printemps 1994, au cours duquel 1 million de personnes furent assassinées en 3 mois, eh bien, la rhétorique mémorielle, par ailleurs, ne cessait de scander « plus jamais ça », mais c'était à propos du 50e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Ce génocide représente clairement l'une des faillites les plus tragiques de ce que l'on nomme la communauté internationale, qui était militairement présente dans ce pays au moment où s'amorçait le début de ce crime de masse. Et elle a cependant été politiquement incapable d'empêcher sa mise en œuvre. Cet effrayant constat de l'abandon des Tutsis en 1994 ne cessera jamais d'être dressé. Nous allons tenter d'éclairer ce dossier à la fois sombre et compliqué avec nos invités. Laurent Larcher, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à La Croix, spécialiste de l'Afrique. Vous avez publié 3 livres sur le Rwanda. Le dernier s'intitule « Papa, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda ? La France face au génocide ». C'est publié aux éditions du Seuil. Vos 2 livres précédents sur le même sujet s'intitulaient « Rwanda, il parle », »,« Témoignages pour l'histoire », c'était au Seuil en 2019. Et aussi « Souviens-toi, mémoire à l'usage des générations futures », un livre avec le général Jean Varret dont nous reparlerons. Ça a été publié aux Arènes en 2023. Également avec nous, Annette Becker, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historienne et vous avez co-dirigé avec Stéphane Audouin-Rouzeau un livre intitulé « Le choc, Rwanda 1994, le génocide des Tutsis ». C'est publié chez Gallimard. Et puis vous avez publié également, ces derniers temps, chez Gallimard également, un livre intitulé « Des Juifs trahis par leur France, 1939-1944 ». Voilà, donc avec nos 2 invités, le journaliste Laurent Larcher et l'historienne Annette Becker, nous allons essayer de comprendre, il y a 30 ans, les mystères du génocide rwandais.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Il y a 30 ans, les mystères du génocide rwandais. Laurent Larcher, vous êtes journaliste. Votre livre s'intitule « Papa, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda ?» Pourquoi avoir souhaité écrire à votre fille, Laurent Larcher ?
Parce que d'abord, j'ai des filles, d'une part. D'autre part, parce que je suis père, donc, et que j'estime que c'est un événement, vous l'avez dit tout à l'heure, l'un des plus importants, pour ne pas dire sans doute le plus important de la fin du XXe siècle. Et un événement, j'appelle ça un événement monstre, dans lequel, donc qui concerne évidemment les Rwandais d'abord, qui concerne le continent africain, mais qui concerne aussi l'humanité et la France. Mmh. Cette histoire, nous avons aussi une histoire commune, il y a un chapitre qu'il faut qu'on décrive ensemble, de notre présence dans ce pays et de notre responsabilité dans le processus qui a conduit à l'extermination.
Voilà. Même si le Rwanda a été, et on va le voir, une colonie belge et qu'on peut trouver les racines de ce génocide dans cette période de colonisation, on va le voir dans un instant, eh bien, les militaires français étaient présents au Rwanda et c'est aujourd'hui un sujet de polémique.
Oui, mais donc en tout cas, ce qui est important à dire pour répondre vraiment à votre question, c'est qu'il faut que les jeunes Français le savent. Oui. Ils sont héritiers de notre histoire, et c'est une histoire évidemment tragique. Ils vivent à leur tour d'en prendre conscience, de porter cette croix.
C'est une croix.
Absolument, c'est même une crucifixion.
Oui, c'est une crucifixion.
Et ça participe de ma responsabilité de journaliste, mais de père de famille, bien
voilà.
Sûr, et de
français. Tout aussi bien. Alors, donc, vous l'écrivez... Vous écrivez à votre fille, il s'agit de te confier ce passé pour le réparer. Vous évoquez la plus grande catastrophe humaine vécue par ma génération. Vous êtes né en quelle année, Laurent Larcher ?
1967.
Voilà, 67. Après l'épouvante cambodgienne, vous rappelez les chiffres, 1 million de Tutsis exterminés par leurs concitoyens pendant 100 jours au printemps 94, soit 10 000 par jour. Alors, pour nous remettre dans l'ambiance et dans le temps et l'espace, je voudrais vous faire écouter plusieurs témoignages sonores qui ont été recueillis par nos confrères de Radio France Internationale. On va commencer le 7 avril 1994. On va écouter un échange avec la première ministre rwandaise de l'époque, Agathe Uwilingiyimana. Laurent Larcher, en quelques mots, nous sommes à quel moment là, ce qu'on va entendre ?
Bah, Agathe se réveille le 7 avril au matin. Kigali est déjà prise par les milices et par l'armée rwandaise. Elle sait qu'elle risque sa vie, puisque autour d'elle, autour de sa maison, il y a des barrages. Et elle est contactée par RFI. Et c'est le dernier témoignage de cette femme remarquable qui annonce, enfin du moins qui raconte la nuit qu'elle a passée et la mort qui s'approche de sa maison. Hein. Elle est dans sa maison avec sa famille, notamment ses enfants. Et c'est la dernière fois qu'on va l'entendre.
On l'écoute.
On tire, on est terrorisé, on est à l'intérieur des maisons, on est couché par terre.
Est-ce que vous pouvez voir quelque chose depuis chez vous ?
Non, on ne sort pas de la maison. Depuis maintenant, il fait clair, mais on ne sort pas encore, on ne peut pas sortir.
Donc il semblerait que vous soyez tout particulièrement visé.
Je ne sais pas, écoutez, si... J'entends des coups. Est-ce que c'est tout près? Est-ce que c'est un peu loin? En tout cas, ce sont des coups qui sont très durs. Je ne peux pas, moi, évaluer la distance d'où on tire. Je ne peux pas l'évaluer. Peut-être qu'il y a d'autres qui sentent de la même façon les faits de ces tirs que moi.
À votre connaissance, selon les dernières informations que vous aviez, il s'agissait bien d'un attentat contre l'avion du président Habyarimana ?
Je ne vais pas donner exactement les causes de cet accident. Je ne vais pas les connaître, moi. Je ne vais pas les connaître.
Est-ce que vous savez si d'autres ministres du gouvernement ou d'autres personnalités politiques du pays sont actuellement en but au même problème que vous, sont assiégés, sont en proie à des mitraillages ?
Je ne sais pas, j'ai reçu un coup de téléphone d'un ministre jusqu'ici. Dans son habitation, il n'y avait rien. À mon avis, nous sommes en train de subir... les conséquences de la mort du chef de l'État, je pense.
Et peu après, donc, comme le disait Laurent Larcher, la première ministre Agathe Uwilingiyimana sera assassinée par la garde présidentielle, dont vous rappelez, Laurent Larcher, dans votre livre, qu'elle a été formée par le GIGN.
Oui, mais une précision quand même à propos de cet extrait. La première ministre n'est pas Tutsi, hein. Mmh. C'est une Hutu,
oui.
Du centre, du sud du pays. C'est très important à le dire, parce qu'on rentre dans l'histoire d'un génocide en donnant la parole à une personnalité extraordinaire, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui a été assassinée pour des raisons politiques.
Mmh. Annette Becker.
Oui, je crois que c'est très important, parce que jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre de personnalités Hutu ont été assassinées. Et on les appelle des personnalités Hutu modérées. Et bien évidemment, cela ne fait pas partie du génocide. Et il faut faire très attention à ne pas mêler les deux.
C'est-à-dire ?
Il y a d'une part un conflit politique, oui. Avec des assassinats d'opposants, je dirais. C'est comme si, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des assassinats de résistants. Mais... ils ne sont pas juifs, ou certains sont juifs, et là, on double la mise, si je peux dire. Mais ceux qui ne sont pas juifs, ce sont des assassinats dans une guerre. En l'occurrence, là, dans une guerre civile au Rwanda. En revanche, quand on vise les Tutsis, et pas des personnalités politiques, simplement, parce qu'ils sont Tutsi, parce qu'ils sont nés Tutsi, alors là, c'est une autre forme de massacre que l'on pourra appeler, on va le développer maintenant, oui, un génocide.
Un génocide. Laurent Larcher ?
Oui, moi je dirais même, ce sont des Hutus, je ne dirais pas peut-être modérés, Annette, mais de l'opposition. Mmh. Ils ont été tués parce qu'ils sont de l'opposition. Ils sont en général tous des démocrates. Et c'est en raison de leur engagement politique, hein, qui était hostile au Hutu power, à l'ethnicisme, enfin à l'intégrisme ethnicisme qui avait gagné le pouvoir en place, qu'ils vont être, aux premières heures, hein, c'est eux qui sont tués, très clairement, ils sont ciblés, aux premières heures du 7 avril, au matin, par la garde présidentielle, les ordres venant de la maison présidentielle, et il y a toute une liste, hein, ils sont éliminés, un peu, si vous voulez, comme au moment de... pendant la Révolution française, pendant la guerre des religions, la Saint-Barthélemy.
La Saint-Barthélemy.
On a une exécution.
Vous faites le parallèle, oui.
Non, mais on a une exécution politique qui va ensuite prendre le pas sur une extermination de masse qui va toucher tous les protestants.
Alors, le moment est venu de remonter le cours de l'histoire pour essayer de comprendre, pour que nos auditeurs puissent bien comprendre ce qui s'est passé, aux sources historiques de cette haine que vous décrivez, Laurent Larcher et Annette Becker. Il y a donc la colonisation par les Belges de 1917 à 1961, avec un partage entre deux races, entre guillemets. Annette Becker, vous qui êtes historienne.
Oui, c'est l'invention par les pouvoirs coloniaux d'une ethnicisation qui va plus loin que cela, puisqu'il s'agit de races. Et ils inventent que tous ces gens qui étaient des Rwandais, dans le passé lointain, les Tutsis étaient plutôt éleveurs et les Hutus plutôt cultivateurs, mais il n'y a pas entre eux de différence physique, bien évidemment. Ils inventent qu'il y a une lignée plus brillante, plus intelligente, qui devrait prendre plus de responsabilité dans le Rwanda colonial. Et l'autre lignée moins intéressante, qui est celle des Hutus.
Ce qui fait que pendant toute la période coloniale, les Belges se sont appuyés sur les Tutsis, au détriment des Hutus.
Exactement. Mm-hmm. Ils ont considéré qu'ils étaient plus capables d'être des appuis du pouvoir colonial. Résultat à l'indépendance, sachant que les Tutsis ont toujours été une minorité, dans le pays, eh bien, à l'indépendance, les Hutus ont pris le pouvoir. Et dès l'indépendance, et c'est cela qui est très important, les choses ne se sont pas déclenchées en 1994.
Oui.
Les choses se sont déclenchées, en fait, à l'indépendance, en 1959. Dès l'indépendance, les Hutus, étant les plus nombreux, ont pris tous les postes de responsabilité, non pas qu'ils n'en avaient pas auparavant, et ils ont commencé à faire des discriminations qui ont été de plus en plus fortes contre les Tutsis, leur empêchant d'aller à l'école, par exemple, de prendre des postes de responsabilité, et aussi, très rapidement, il y a eu un certain nombre de massacres, il y a eu des pogroms, et on a forcé un certain nombre de Tutsis à fuir.
Alors, Laurent Larcher, je pense qu'il faut revenir à ce que un certain nombre de nos auditeurs peuvent avoir en tête par rapport à ce que nous sommes en train de décrire comme un génocide. Et on va écouter d'autres témoignages dans un instant. Pour beaucoup d'entre nous, cette tension et ces massacres peuvent être vécus comme, avant tout, de simples massacres interethniques avec une sorte de résurgence des pulsions sauvages. Or, vous dites l'un et l'autre, l'historienne et le journaliste, que ça n'est pas de cela qu'il s'agit, Laurent Larcher.
Oui, dire cela, ça, c'est convoquer des préjugés qui sont hérités de l'époque coloniale. Juste un mot à propos de l'ethnie. Le mot ethnie n'existe pas dans la langue rwandaise. D'ailleurs, elle n'existe dans aucune langue africaine. C'est un concept inventé, forgé par l'Europe, l'Occident et par le colon.
Mais il figurait sur les cartes d'identité.
Oui, mais encore une fois, ce que dit très bien Ned Becker, si vous voulez, les colons, les Belges, mais aussi l'Église, parce que les pères blancs ont une responsabilité, à mon sens, capitale dans l'ethnisation, si je peux dire, des mm-hmm. rapports sociaux. Ils ont vu dans des différences sociales, hein, les Hutus étaient plutôt des agriculteurs, les Tutsis étaient des éleveurs, pasteurs d'un côté et encore une fois agriculteurs de l'autre. Ils ont vu dans une différence, ils ont fait d'une différence sociale une différence raciale, qu'ils ont fixée sur les cartes d'identité. De sorte que chacun, dès lors que sur leur carte d'identité il était marqué Tutsi ou Hutu, était assigné à résidence pour l'éternité, si je peux dire, dans cette identité. Or on le sait, ils formaient le même peuple. Mmh. Ils avaient la même langue, la même religion, la même histoire. Ils se mariaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils mouraient ensemble. Les uns pouvaient être...
On pouvait passer de l'un à l'autre.
Bien entendu, il s'agissait d'appartenance de vaches, de nombre de vaches. À partir de 10 vaches, vous faisiez partie de la catégorie des éleveurs, donc des Tutsis. Ça n'avait strictement rien à voir avec des races qui n'existent pas. Mais c'est très important ce qu'on vient de dire, parce que c'est vraiment,
il faut évacuer
la racine idéologique du génocide, mais c'est aussi notre manière à nous de nous tromper tout le temps sur l'Afrique.
Alors, on va replonger dans ces journées tragiques du printemps 1994. On va écouter le témoignage d'un délégué du CICR, de la Croix-Rouge, qui s'est exprimé sur toujours sur Radio France Internationale, et nous remercions nos confrères. C'était le 23 avril 1994. Il nous dit avec ses mots ce que vous décrivez, Laurent Larcher, avec vos mots, c'est-à-dire que on voit des parents tuer parfois leurs enfants, on voit des prêtres tuer leurs paroissiens, des médecins leurs patients, des professeurs leurs élèves, et réciproquement, voilà la situation que décrit Roland Sidler, délégué du CICR, de la Croix-Rouge, sur les ondes de Radio France Internationale, le 23 avril 1994.
En Europe, on s'imagine des combats au canon, on s'imagine des combats au fusil. Ici, il faut oublier ça. C'est un combat en silence, c'est un combat à la machette, mais les dégâts sont incroyables. C'est-à-dire, on coupe, on découpe, on mutile les gens et les cadavres jonchent les sols. Vous pouvez en voir qui ont encore des soubresauts de vie dans la rue parce qu'ils ne sont pas complètement achevés, mais c'est une boucherie, c'est simplement un abattoir.
Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que CICR, depuis quand vous êtes là ?
Cela fait à peu près une dizaine de jours que nous sommes présents. Nous avons effectivement essayé d'avoir avec l'autorité locale, si on peut encore dire que l'autorité locale a un semblant de pouvoir, de sensibiliser la population sur certaines règles, sur certains principes humanitaires. Je vous explique une situation. Nous sommes en discussion pour faire une cellule de crise avec les autorités militaires, avec les autorités civiles, pour essayer de mettre sur pied quelques séances de pacification pour qu'on puisse au moins essayer d'évacuer les corps qui commencent à joncher toute la ville et qui commencent à faire des senteurs qui sont inadmissibles. Eh bien, quelques heures après, on se réunit à nouveau. Eh bien, sur les 8 personnes initialement à la réunion, il n'y en a plus que 6 parce qu'il y a déjà 2 qui ont été éliminés en quelques heures.
On entend l'émotion du délégué du CICR, Roland Sidler, le 23 avril 1994. Annette Becker, expliquez-nous, comment un tel crime a-t-il pu se produire ? Comment la violence, cette violence dont on comprend qu'elle est systématique, a pu être mise en œuvre par l'État, ses services, ses agents locaux ? Expliquez-nous.
Non seulement elle a été mise en œuvre par l'État, par le haut, mais elle s'est mise en œuvre par le bas, par les populations. C'est un génocide largement de proximité, ce qu'on appelle un génocide de voisins. Et pour le comprendre, il faut voir que tout cela a été préparé. Ça ne n'est pas comme ça parce que l'avion du président a été abattu. Cela faisait des années les journaux, les radios diffusaient le fait que les Tutsis de l'intérieur, les Tutsis qui vivaient au Rwanda, étaient des animaux ou des satans,
Ou des cafards.
Et des animaux animalisation, dans tous les génocides, cela arrive. Ils sont des cafards, des
serpents.
C'est une constante de tous les génocides.
La déshumanisation.
Déshumanisation, oui. Par l'animalisation ou la réification. Et là, on a absolument les deux. Et ce sont donc des gens qui sont déjà prêts, je dirais, idéologiquement. Dans les grandes villes, comme Kigali, bien sûr, la capitale, où parle le délégué du CICR, les gens se connaissent dans les quartiers, mais ils ne se connaissent pas ailleurs. Et c'est donc là que les cartes d'identité dont nous parlions tout à l'heure deviennent très importantes, parce qu'on dresse des barrières, les tueurs dressent des barrières, et ils demandent la carte d'identité. Et si l'on est Hutu, on peut passer. On disait tout à l'heure qu'il n'y a aucune différence physique. On ne peut pas reconnaître, évidemment. Et là, la carte d'identité, si je peux me permettre une comparaison qui est peut-être un peu facile, c'est l'étoile jaune. Et du moment que vous avez Tutsi sur votre carte d'identité, eh bien, vous allez être immédiatement tué, soit à la machette, soit à l'arme automatique, de façon très rapide. Ça, c'est dans les grandes villes. Mais dans les campagnes, tout le monde se connaît. Il n'y a absolument pas besoin de carte d'identité. Là, c'est cette tension née à travers les années de refus des Tutsis qui était assez enfoncée dans la population, dans l'idéologie de la population.
Je veux dire que les esprits étaient mûrs.
Les esprits étaient tout à fait mûrs. Et quand on leur donne le droit, quand on les pousse, bien sûr.
Et quand on
les arme, mais beaucoup des armes sont des armes agricoles, hein, la machette, la houe, et puis aussi on apporte des fusils, bien sûr, des grenades, énormément. Et l'idéologie est y compris, et je crois qu'à ce micro c'est très important de le rappeler, à l'intérieur de l'Église catholique.
Oui, on va en parler.
Parce que tous les Rwandais sont catholiques, pratiquement. Les autres religions, le protestantisme.
Le pape Jean-Paul II s'était rendu en visite, il faut le rappeler,
deux ans auparavant.
Ça avait été une visite triomphale, forcément.
Bien sûr.
Et ce sont les mêmes,
bien évidemment, y compris des prêtres.
Oui.
Et dernière chose que je voudrais dire maintenant, avant qu'on revienne plus longuement sur le catholicisme, c'est que quand vous arrivez dessus des troupes de tueurs, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez à vous réfugier. Et dans les massacres précédents de 59, de 63, etc., les Tutsis s'étaient réfugiés dans les grands bâtiments, les églises, les écoles, les hôpitaux. Et là, ça avait marché, ça avait tenu.
Ils avaient été protégés.
En 94, tout se retourne. Les écoles, les églises, les hôpitaux deviennent les lieux des grands massacres parce que c'est là que les gens sont venus.
Juste une question à Annette Becker avant de donner la parole à Laurent Larcher. Vous êtes également historienne de la Shoah. Jusqu'à quel point peut-on faire le parallèle entre ce conditionnement des populations rwandaises qui les a conduits, c'est ce que vous nous expliquez, à tuer leurs voisins, leurs amis, voire leurs enfants, leurs élèves, leurs paroissiens, et le conditionnement des populations allemandes sous le nazisme?
Moi, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre l'antitutsisme et l'antisémitisme. Dans un premier temps, c'est une mise à l'écart. Dans un deuxième temps, des persécutions. Et dans un troisième temps, le temps de la tuerie. Et là, on retrouve exactement...
Avec la transformation en objet, en Stücke.
Bien sûr. Les objets...
La
réification, les cafards, les serpents, principalement. Et pour les Allemands qui se voulaient au comble du progrès, et donc du progrès médical, les Allemands médecins étant les plus grands nombres du parti nazi, les Juifs deviennent des bacilles, des virus. Mais on a exactement le même phénomène.
Donc on peut faire ce parallèle. Laurent Larcher.
Oui, non, je voulais dire 3-4 choses. D'abord, une précision, le pape Jean-Paul II se rend à Kigali en septembre 1990. 15 jours après, c'est le déclenchement de l'opération du FPR et c'est le début de l'engrenage.
Le FPR Tutsi.
Oui, C'est plus compliqué.
Oui.
Mais d'accord.
Il faudrait peut-être dire deux mots sur la guerre civile, parce que sinon, on ne comprendra pas.
Alors, allez-y.
Certains, je veux dire simplement très rapidement,
et on reviendra
que
au pape.
Très peu d'éléments, oui. Très peu d'éléments, Tutsi, dans un premier temps, et de plus en plus, qui étaient persécutés à l'intérieur, se sont installés principalement en Ouganda. Et à partir de là, ils ont voulu, à un certain moment, reprendre, revenir dans leur pays qui était le leur. Mmh. Et là, s'en est suivie une guerre civile. Et donc, c'est pour ça que les choses sont très compliquées, parce qu'il y a un mélange de guerre civile et de génocide.
Mmh. Laurent Larcher, pour
Oui, je voulais aussi quand même insister sur ce point. C'est un génocide sophistiqué. Ce n'est pas du tout une bouffée de haine qui surgit comme ça, d'une manière naturelle. C'est très culturel. C'est très pensé en amont.
C'est organisé.
Mais c'est plus qu'organisé, oui. C'est pensé.
Oui.
C'est les gens qui font ça le planifient. Mais ils ne le planifient pas le 5 avril ou le 6 avril. C'est des années plus tôt. Et ils utilisent des méthodes, d'ailleurs, ils vont s'inspirer beaucoup de... Vous parliez tout à l'heure du nazisme. On a retrouvé dans le palais présidentiel des films de propagande nazie. On sait... Là, je publie la semaine prochaine une enquête sur Agatha Birimana, la femme du président. J'ai un témoin...
Qui vit en France en ce moment.
Oui, c'est tout l'enjeu de cette enquête. Mmh. J'ai rencontré un témoin dans le livre, qui était le colonel Galinier, l'attaché défense de l'époque, qui me raconte que Agathe s'est inspirée, lisait, elle avait beaucoup étudié Vichy. Mm-hmm. Et la manière dont Vichy avait, traité les Juifs, les mis de côté, puis les persécutés, voilà, mm-hmm. en vue de leur élimination. Tout ça est pensé en amont. C'est très important de dire. J'ajoute...
Et c'est pensé à certaines sources, c'est ce que disait aussi Anna de Becker.
Oui, mais ce ne sont pas des sauvages.
Oui.
Ce sont des gens extrêmement intelligents.
Oui.
Mais vraiment profondément intelligents. J'ajoute... Il ne faut pas non plus tomber dans le cliché du génocide, à mon sens, à la machette.
Mmh.
Bien sûr que c'est des images, c'est une image qui frappe l'œil occidental. Mais la plupart des tueries ont eu lieu, ça a été organisé. Hein, donc on rassemble les gens, comme vous l'avez très bien dit, Anna Becker, dans des lieux clos, les églises, les écoles, les hôpitaux, les stades, des lieux qui apparaissent comme des lieux de protection. Et ensuite, on envoie d'abord l'armée et la gendarmerie. Ils sont tués d'abord à la grenade ou à la mitrailleuse. Mmh. Et ensuite, on achève, on demande au peuple qui doit s'associer au crime pour faire unité, d'achever les uns et les autres. Mais la plupart des Tutsis ont été tués d'abord avec des armes, avec des munitions, qui venaient de l'Occident d'ailleurs, et de la France, de manière... très organisé. C'est au canon, à la mitrailleuse et à la grenade. Faut pas donc tomber, je crois, dans ce cliché, encore une fois, de sauvages qui partent avec leur machette à la poursuite de leurs voisins. Ce qui s'est passé aussi,
oui.
Bien sûr. Hein.
Mmh.
Les massacres sur les corps sont épouvantables. Mais au départ, c'est fait froidement. C'est un génocide qui est froid.
Organisé et planifié.
Mais bien sûr. Mmh. Bien sûr.
Alors, évidemment, il y a
Ensuite, il y a un mystère, c'est effectivement un mystère.
Il y a beaucoup de mystères. Hein. C'est les mystères qu'on essaie
C'est l'adhésion populaire à ce massacre. Mais encore une fois, tout le monde n'a pas non plus participé. Il y a eu des gens qui ont résisté. Chez les Hutus, il y a des gens qui ont caché.
Il y a eu des justes.
Oui.
Oui, enfin, tellement peu.
Becker.
Ça, je crois que c'est un grand désaccord entre Laurent et moi pour le Rwanda.
Oui.
Mais aussi pour la France, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je crois que les justes, dans les deux cas, ont été très peu nombreux. Et que les Tutsis qui ont échappé surtout par eux-mêmes, comme les Juifs ont largement échappé par eux-mêmes et leurs propres organisations et leurs propres canaux. Et je crois que c'est important de le dire, et parce que en pensant qu'il y a des justes, beaucoup, dans les deux cas, eh bien, d'une certaine façon, on exonore un peu beaucoup ce qui s'est passé alors. Mmh. Et les pourcentages étant tellement petits, c'est bien d'en parler, très important. Et c'est merveilleux qu'il y en ait eu.
Il nous faut bien quelques bribes d'espoir, quand même.
Voilà, c'est des bribes d'espoir.
Mais
je crois que ce génocide est si sombre que vraiment D'accord. On doit parler du sombre d'abord.
Je voudrais revenir un instant sur la question que soulevait Laurent Larcher il y a deux minutes, c'est la question de l'adhésion populaire. Annette Becker, quelle est votre analyse là-dessus?
Alors là, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, d'ailleurs, il y a un livre d'un de nos collègues qui a écrit un article dans Le Choc. Mmh.
Je rappelle le titre, Le Choc, Rwanda 94, le génocide des Tutsis, c'est chez Gallimard.
Oui, et il a écrit un livre qui s'appelle Un génocide populaire. Mmh. C'est un Rwandais, d'ailleurs. Et donc, ça, c'est très important dans notre livre. On a voulu donner la parole à des chercheurs en sciences sociales, mais aussi à des écrivains, à des cinéastes, pour qu'ils disent comment le génocide leur est tombé dessus. Leur est tombé dessus au sens physique et réel pour ceux qui l'ont vécu, et intellectuellement, comment on a découvert le génocide et comment on a essayé d'écrire, de réfléchir sur ce génocide. Et donc lui, il parle de génocide populaire. Il était à l'époque étudiant au Canada, il est un Tutsi rwandais et découvre au Canada qu'on est en train d'assassiner toute sa famille et celle de ses amis et celle de son peuple. Et il est rwandais et dans un premier temps c'est incompréhensible, bien qu'il soit bien au courant que ça fait des années qu'on a préparé, bien sûr, oui. Il est tout à fait conscient. Et quand il emploie le mot « populaire », c'est cela qu'il veut dire. Il veut dire qu'il y a l'adhésion générale de tous ceux qui, se sentant tout d'un coup, se sentent le droit de tuer les autres. Et cette adhésion populaire est au cœur, je dirais, du mystère, mais aussi de la chose la plus horrible, c'est que dans l'humanité, il y a toujours l'inhumanité qui est toute proche.
Les racines du présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro, Frédéric Mounier, nous tentons aujourd'hui de démêler la complexité et les mystères du génocide rwandais. C'était en 1994, au printemps. En 3 mois, 1 million de personnes ont été assassinées. Pour essayer de comprendre tout cela, nous sommes en compagnie de Laurent Larcher, journaliste à La Croix, qui a publié plusieurs livres sur la question du Rwanda, dont le dernier aux éditions du Seuil, intitulé « Papa, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda ? La France face au génocide ». Nous sommes également en compagnie de Annette Becker, historienne, co-directrice du livre publié chez Gallimard, « Le choc, Rwanda 1994, le génocide des Tutsis ». Laurent Larcher, il y a deux trous noirs, si j'ose dire, qui concernent ce génocide du printemps 1994 au Rwanda. C'est d'une part le rôle des forces internationales et en particulier de l'armée française qui était présente sur le territoire, et d'autre part le rôle de l'Église. Alors nous allons essayer d'analyser en profondeur ces deux trous noirs. Commençons peut-être par la place et le rôle des forces internationales. Laurent Larcher, comment un tel crime a-t-il pu se produire sans que les forces internationales, en particulier françaises, présentes dans le pays, tentent d'y mettre un terme? Que s'est-il passé?
Alors moi, je pense ce qui s'est joué là, vous savez, l'armée obéit aux ordres. Si on avait dit aux parachutistes français de l'opération Amaryllis, si vous voyez des Tutsis se faire tuer à un barrage, vous intervenez, ils seraient intervenus, je pense. Sauf qu'ils n'ont pas reçu cet ordre. Ils ont même reçu un ordre qui leur disait de ne pas le faire.
Je rappelle que vous avez fait un livre avec le général Jean Varret, qui occupait une fonction importante à cette époque-là.
Oui, enfin Jean Varret, c'est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte. Oui. C'est un général très important dans le dispositif français en Afrique, militaire en Afrique. C'est lui, tous les militaires, enfin, c'est encore un autre sujet, mais lui dirige tous les militaires français envoyés sur le dans les anciennes colonies françaises. Et dès la fin 1990, début 1991, il comprend
ce qui va se passer.
Bah, il comprend surtout que nous sommes en train d'aider des gendarmes, une armée qui clairement lui dit face à face qu'ils ont besoin de plus de soutien, plus d'armement, plus d'équipement et des équipements lourds.
Pour exterminer.
Pour en finir avec la question Tutsi. Alors, Jean Alvarez lui dit, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, c'est simple, on va tous les éliminer. Les femmes, les enfants, les vieillards. Et vous savez, ça sera facile parce qu'ils ne sont pas nombreux. Enfin, ce ne sera pas long parce qu'ils ne sont pas nombreux. Et ça, il apprend vraiment, on est à 4 ans avant. Mmh. Et il alerte l'Élysée, il alerte toutes les autorités à Paris qui ne veulent pas entendre cela et qui vont progressivement le mettre de côté jusqu'à le pousser à démissionner. Lui, c'est un lanceur d'alerte. Mmh. L'armée obéit aux ordres. Le premier responsable, c'est d'abord le politique. C'est d'abord l'exécutif, à commencer par le président de la République.
Alors rappelez-nous, qui était en charge à l'époque ?
C'est François Mitterrand, bien entendu. François Mitterrand et son entourage proche.
Qui était Premier ministre ? Qui était ministre des Affaires étrangères ?
Ça change beaucoup, parce qu'on est dans une époque vraiment... Avant la cohabitation, ça change. Pendant la cohabitation, ça rechange. Donc là, on a un certain nombre de personnalités. Et c'est d'ailleurs le problème. C'est qu'au fond, beaucoup de l'élite politique française de ces années-là va se tromper sur l'affaire du Rwanda, et après va contribuer à cultiver le déni français.
Vous les avez interviewés.
Oui.
Vous avez interviewé Alain Juppé, vous avez interviewé Hubert Védrine.
Oui. Mais donc, pour répondre à votre question, la responsabilité tient d'abord aux politiques. Les militaires ont obéi aux ordres, du moins aux consignes politiques. Ensuite, il est évident qu'il y a parmi ces militaires des gens qui ont adhéré, qui ont épousé le regard de leurs frères d'armes, qui était l'armée rwandaise à composante Hutu, dirigée par du Hutu Power, par des intégristes, des racistes, des gens qui voulaient vraiment l'extermination des Tutsis. Ils n'ont pas été très lucides sur ce qui s'est passé, c'est évident. Pourquoi ? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils ne voulaient pas voir ? Est-ce qu'ils nous voulaient, comme dit Primo Levi, ne pas savoir, voire ne rien savoir ? C'est possible. Mais encore une fois, je pense que les premiers responsables sont d'abord les élus, les politiques, ceux qui étaient en charge de la politique extérieure de la France, et à commencer par le François Mitterrand, dont je vous rappelle, il est en France le chef des armées. Et la politique extérieure de la France est un domaine réservé. Et c'est d'ailleurs tout le drame et toute l'origine, à mon sens, de cette catastrophe. C'est qu'il ne faut pas que la politique française soit le domaine réservé d'un seul homme. Mais évidemment, ça doit être un domaine partagé. Et si ça avait été le cas, on peut penser que les lanceurs d'alerte, au niveau du général Varay, général Varay, c'est un général 4 étoiles, c'est quelqu'un d'important, auraient eu sans doute plus de facilité pour se faire entendre et rééquilibrer dans un sens plus sain et plus juste la politique française. Il fallait arrêter la coopération, autrement dit.
Oui, Annette Becker.
Je crois qu'il faut le replacer dans la géopolitique, et l'obstination de Mitterrand vient de cela. C'est-à-dire que ça fait partie du cœur de la France-Afrique. On parle français au Rwanda et les autorités Hutu, autour du président Habarimana, autour du Hutu Power, disent que, rappelons-nous qu'on est dans une guerre civile juste avant le déclenchement du génocide, et que donc les autres parlent l'anglais. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont installés en Ouganda.
Donc il y a un front culturel.
Et il y a un front culturel. Oui. Ils sont persuadés.
Donc la France veut préserver la francophonie.
Voilà, elle veut préserver la francophonie. Oui. Et derrière l'agenda culturel de la francophonie, elle veut sauvegarder la force de la France en Afrique.
Quitte à faire preuve d'aveuglement.
Et ils s'aveuglent volontairement les autorités, parce que cet aveuglement sert leur but néocoloniaux de la France-Afrique. Et donc, plus ils s'aveuglent, plus on rentre dans le génocide, et plus ils ne comprennent rien. Et ils ne comprennent rien parce que, quelque part, il y a une complicité dans le déclenchement qui est absolument évidente,
au sommet.
Et donc, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des problèmes, alors c'est de là que le négationnisme. Parce que, bien évidemment, pendant le génocide, les massacres atroces, une fois que le génocide a pris fin, eh bien, les génocidaires, invention d'ailleurs des Rwandais, dans le vocabulaire des génocides, on n'employait pas le mot génocidaire avant, les génocidaires vont essayer de se cacher, de s'enfuir. Et les Français, eh bien, ils trouvent qu'il faut préserver les génocidaires.
Oui, c'est-à-dire que les soldats français sur le terrain, Laurent Larcher, notamment sur la colline de Bicêcero, je crois.
Bicêcero,
voilà, c'est ça, n'ont rien compris.
Non, mais ils ne comprennent rien. Oui. De 1990 à 1994. 90, c'est le début de l'intervention militaire française, jusqu'en 94. Et je dirais même, malheureusement, encore aujourd'hui, un certain nombre de ces acteurs, toujours en place, toujours vivants, je ne vais pas donner des noms parce que je ne veux pas avoir de procès, mais un certain nombre de... Enfin, ils sont quand même connus, sont dans une position, ils ont la même... D'ailleurs, dans le livre que vous citiez, je les interroge 27 ans après les événements, et ils sont dans la même lecture de l'événement qu'en 94. C'est quand même tout à fait hallucinant. Mais ce qui se joue aussi, Annette Becker l'a soulevé, il y a deux choses. Un, effectivement, on ne comprend pas la position française au Rwanda si on n'a pas en tête que pour François Mitterrand et pour les gaullistes de l'époque aussi, il y a un anti-américanisme qui est capital. C'est parce que on pense sérieusement que les Tutsis de l'étranger, enfin du FPR, donc, sont soutenus par les Anglo-Saxons, par les Américains et les Britanniques, qu'il faut arrêter cette colonne. Donc, mais c'est vraiment quelque chose qui est structurant dans l'histoire française du XXe siècle. On retrouve ça et chez Mitterrand, mais aussi chez le général de Gaulle. J'ajoute une chose importante, me semble-t-il. Je ne sais pas s'ils sont aveugles. Je pense parce qu'ils sont alertés quand même, et par des gens très sérieux. On parlait du général Varet, mais il y a aussi des spécialistes. Il y a des articles dans la presse. Il y a des journalistes qui font leur travail. Il y a des gens qui passent même à la télévision, qui alertent, qui amènent des images. Pour eux, je pense que malheureusement, ils le font en dépit d'eux. Pour la bonne raison que c'est l'Afrique. Oui. C'est culturel, c'est massacre.
C'est l'éternelle explication.
On ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, dans le livre, il y en a un certain nombre de gens qui me disent « Mais Monsieur Larcher, ou Laurent Larcher, vous savez, c'est ça l'Afrique. Mais vous ne connaissez pas l'Afrique, si ça vous choque. » Tous les massacres de Tutsis qui ont eu entre 1990 et 1994 sont balayés d'un revers de main au motif que c'est ça l'Afrique.
Une sorte d'aveuglement culturel.
Alors que le plus grand spécialiste français de la région, Jean-Pierre Chrétien, qui lui connaît l'Afrique et comment, a parlé... dès avant le génocide, de nazisme tropical. Il en a parlé avec une force et une connaissance parfaite de l'Afrique. Je crois qu'au-dessus de tout ça plane le racisme des Européens et des Français en particulier.
Alors, il faut souligner maintenant que pour essayer d'éclairer cette complexité, l'État français a commandé à l'historien Vincent Duclerc un rapport. Ce rapport a été publié. Il fait 12 000 pages. Il pointe les responsabilités lourdes et accablantes de la France, mais se refuse à admettre une complicité de génocide. Il propose un réquisitoire de la politique suivie par François Mitterrand et son entourage proche, qui est accusé d'avoir illégalement préempté, c'est ce que vous disiez l'un et l'autre, la politique française au Rwanda. Je voudrais qu'on écoute maintenant la déclaration de Emmanuel Macron, président de la République, qui était au mémorial de Kigali, le mémorial du génocide. Et donc, il s'est exprimé et il a reconnu cette complicité de la France. On l'écoute, c'était le 27 mai 2022.
Il l'a pas reconnu.
On va voir.
Il a pas reconnu la complicité.
On écoute.
Alors, en me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. En s'engageant dès 1990 dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde. Ou bien a-t-elle surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter ce qui était déjà à l'œuvre ? La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises, n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes ni les mains de ses soldats, qui ont, eux aussi, vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda.
Voilà, responsabilité mais pas complicité, c'était Emmanuel Macron le 27 mai 2022 au mémorial de Kigali. Laurent Larcher, vous soulignez cette différence.
Oui, alors quand même un mot sur le rapport du Clerc, qui va inspirer fortement le discours d'Emmanuel Macron. Il est essentiel évidemment parce que pour la première fois du moins, il permet à une prise de parole politique claire et nette sur la responsabilité de la France. C'est quand même la première fois de tous les présidents qui sont succédés de 1994 à 2021, de tous les premiers ministres. Personne n'avait dit cela à ce niveau de l'État, bien sûr. Ensuite, la question de la... Tout le monde retient ce... Il y a trois phrases sur la complicité dans le rapport de Vincent Duclerc. Et lui, lui dit même qu'il... Enfin, il a une définition. Il le dit lui-même, d'ailleurs, parce qu'on en débat. On est invité à, sur différentes... Enfin, bon, on en débat publiquement. Enfin, on revient sur ce point publiquement. Lui-même dit qu'il a une définition, c'est ses mots, restrictive de la complicité. Moi, je cite simplement l'article pénal qui définit dans notre code, dans notre droit, la complicité. C'est l'article 121, alinéa 7 du code pénal. Est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Pour vous, c'est clair, Laurent Larcher.
Non, moi, je ne suis pas juriste.
Oui.
Je pense qu'on a établi la responsabilité. Maintenant, il faudrait qu'on débatte, qu'on aborde sérieusement la question de la complicité. Est-ce que l'article 121, alinéa 7, concerne ce que nous avons fait au Rwanda entre 1990 et 1994?
Alors, responsabilité, complicité, il y a un autre trou noir qu'il nous faut absolument aborder avant la fin de cette émission, c'est la question de la responsabilité, éventuellement de la complicité de l'Église catholique au Rwanda dans ce génocide. Vous l'avez dit, Annette Becker, des prêtres ont assassiné leurs paroissiens, des prêtres ont incité dans leur paroisse et dans leur église des génocidaires à commettre le crime. Où en est-on aujourd'hui? Que peut-on dire de cette responsabilité, Annette Becker?
Je crois que là, on est au cœur de la vraie question. Parce que le génocide, quelles que soient les complicités françaises, moi je l'emploierai, est un génocide qui se passe au Rwanda, entre Rwandais.
Et entre catholiques.
Et entre catholiques.
Voilà.
Et donc, je crois qu'il est très important de se placer au Rwanda. Et tout ce qui concerne la France, les autres pays européens, la Belgique en premier, les États-Unis, c'est un autre problème. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre à l'intérieur le génocide. Et cette intériorité, elle est passée fondamentalement par le fait que tous ces hommes étaient des catholiques, et des catholiques pratiquants, ces hommes et ces femmes. Or, ils ont cassé immédiatement, les génocidaires, tout ce qui fait le cœur du catholicisme, tout ce qui fait le cœur du christianisme. Et il faut essayer de comprendre cela.
Est-ce qu'on peut comprendre?
Et ben, je ne suis pas sûre qu'on puisse comprendre, mais on peut
au moins dire.
Voir leurs mots, voir ce qu'ils ont dit à l'époque et comment ils ont pu accepter cela. Comment ils ont pu accepter...
Ou participer.
Alors,
bien pire.
Accepter pour la hiérarchie catholique, pour les évêques sur place, par exemple... et puis participer pour la masse des tueurs qui sont d'aussi bons catholiques que les tués. Et je crois que pour cela, il faut revenir à ce qu'est le génocide. Le génocide, c'est d'abord le génocide physique, c'est-à-dire éliminer immédiatement l'autre. Pour l'éliminer, il faut penser qu'il n'est rien. Et donc, en particulier... il est dangereux pour soi, avec un effet de miroir. Si ce n'est pas moi qui le tue, c'est lui qui va me tuer.
C'est ça le mécanisme.
Et donc, il est du côté du diable. Et donc, il n'est plus catholique. Il appartient à une autre communauté, non humaine, mais diabolique. Ça, c'est pour le physique.
D'accord.
Ensuite, c'est le biologique. Le biologique, c'est qu'il ne faut plus jamais qu'il y ait un Tutsi sur la Terre. Le peuple Tutsi doit disparaître de la Terre. Pour faire un pléonasme de ce qu'a dit Hitler pour les Juifs. Eh bien, à ce moment-là, on viole les femmes. On les viole de préférence en leur inoculant le sida, parce que même si elles survivaient au viol, eh bien de toute façon, elles seraient malades et elles mourraient. Mmh. Et on tue les enfants. Parce que tuer les enfants, c'est faire qu'il n'y ait plus jamais de tout de suite.
C'est tuer l'avenir.
Et là, laisser venir à moi les petits-enfants, mmh, c'est terminé. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de christianisme.
Laurent Larcher, votre explication ?
Alors, je n'ai pas d'explication. Je réfléchis à cette question depuis 30 ans.
Ben oui. Il n'y a toujours pas d'explication.
Mais si, du moins, je n'arrive pas à aller au fond du problème, parce que oui, c'est tellement abyssimal. Non, mais parmi les choses qui me sont... La responsabilité de la hiérarchie catholique est capitale.
Ils ont laissé faire ou ils ont participé ?
Mais ils ont plus que ça. Enfin, oui, c'est compliqué, mais...
Les deux.
Ils ont, ouais. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une racine catholique dans le, mm-hmm, dans la, il me semble, du moins dans l'idéologie génocidaire. C'est très clairement, du moins, une racine catholique du point de... Ce sont des évêques, Mgr Perraudin, qui est le parrain de la révolution sociale, qui est le parrain de l'idéologie qui va conduire au génocide. Tous les pogroms anti-tutsis qui ont eu lieu entre 1959 et le 7 avril 1994, donc tous ceux qui ont précédé le génocide, n'ont pas été dénoncés, n'ont pas par la hiérarchie, n'ont pas été les coupables n'ont pas été dénoncés par la hiérarchie. C'est un effondrement, un naufrage de cette hiérarchie, mais qui est hallucinante et qui se poursuit encore aujourd'hui. Je ne parle pas de la hiérarchie catholique aujourd'hui au Rwanda, mais je connais très bien le monde, oui, catho, et je vois encore combien beaucoup sont restés sur des schémas d'avant le génocide, et c'est hallucinant.
Alors, vous expliquez dans votre livre, Laurent Larcher, que le cardinal de Kigali, Mgr Antoine Kambanda, vous a expliqué que les prêtres génocidaires n'ont pas été renvoyés de l'état clérical, c'est-à-dire qu'en prison, ils sont restés prêtres, et une fois leur peine purgée, que sont-ils devenus ? Eh bien, le cardinal de Kigali vous explique qu'ils ont été réincardinés. Comment expliquer cela, Laurent
Larcher ? Il n'y a pas le choix, parce que le droit canon, oui, n'a rien prévu pour le cas de prêtres génocidaires. Ça fait 30 ans que ce génocide
Cette
a
raison
eu lieu.
Est-elle suffisante ? Mais parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles le droit canon n'a pas prévu, notamment sur la question des abus sexuels.
Oui, la question des... Oui. Des crimes sexuels, en l'occurrence, oui, moi j'appelle pas ça des abus, oui, qui s'est passé pendant le génocide de Rwanda. Un très grand nombre de prêtres génocidaires ont, comme les autres, violé et tué les femmes après le viol. Mmh. Et cela, c'était une arme du génocide. Et donc, comme ils acceptaient le génocide, ils en acceptaient tout, y compris le fait que violer le plus de femmes, ouais, possible, c'était formidable pour le génocide. Et en réalité, ce manque d'impunité à l'intérieur d'un génocide, d'une certaine façon, est un parallèle avec, ouais, le manque d'impunité pour tout crime commis par des prêtres, n'importe, ouais, où, y compris.
Alors,
les crimes sexuels.
Il y a un cas tout à fait concret que vous soulevez dans votre livre, que vous rappelez dans votre livre, Le choc Rwanda 1994, le génocide des Tutsis, chez Gallimard, Annette Becker, c'est l'affaire Venceslas. L'affaire Venceslas, on se rappelle que le père Venceslas Munyeshaka avait été poursuivi dès 1995 au Rwanda par le tribunal pénal international, qu'il était un moment emprisonné. Il a été condamné par coutumasse à la prison à vie au Rwanda. Et en fait, il est revenu en France.
Oui, tout à fait. C'est le magnifique
oui, c'est
exemple,
un exemple. Oui.
Magnifique exemple, peut-être le plus pur de l'horreur, oui, de tout cela. Il était le prêtre de la Sainte Famille, qui est un endroit énorme, une énorme église, une énorme école religieuse qui tout autour, et il a agi en toute impunité, en bon génocidaire, en violant lui-même des femmes et en envoyant des femmes à d'autres miliciens en leur disant que comme ça, elles seraient sauvées. Il a bien sûr été mis en accusation, mais la justice, et c'est la fierté de la justice, a considéré qu'il y avait vice de forme, que des témoins se contredisaient, et donc finalement, il n'a pas été condamné.
Et donc il est revenu en France.
Il est revenu en France.
Il est devenu curé de paroisse
dans
en France.
La paroisse à
Évreux. Oui, à Évreux.
À Évreux, à Gisors. Voilà. Et là, il a eu un enfant en dehors du mariage.
Et
c'est pour cette raison qu'il a fini seulement en 2023, c'est-à-dire hier, qu'il a fini par être renvoyé de l'État clérical.
Par le pape François. Mais non pas pour ses actes génocidaires.
On peut être un assassin, on peut être un violeur, on peut rester dans l'Église.
Laurent Larcher, en quelques mots, on arrive malheureusement à la fin de cette conversation passionnante. Votre point de vue ?
Oui, sur cette affaire, il y a tellement de choses hallucinantes, mais l'une des choses aussi qui me choque, c'est que l'évêque de ce prêtre n'a jamais pris contact avec les victimes. L'évêque français. N'a jamais pris contact avec les victimes.
Avec les victimes au Rwanda.
Les femmes qui accusaient son prêtre de les avoir violées en 1994.
Oui.
Il ne s'est pas donné la peine de prendre son téléphone et de dire « qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi dites-vous ça ?» Il ne s'est pas donné la peine d'appeler la conférence épiscopale rwandaise pour dire « Que savez-vous ? Que pouvez-vous me dire de ce prêtre qui est chez nous ?» Enfin, c'était un manque d'empathie qui me sidère. Et je crois que les frais d'avocat ont été payés par le diocèse d'Évreux.
Donc là, on est vraiment au cœur, pour parler gentiment, on est au cœur du mystère ou de l'incohérence ou du scandale.
Il ne voulait rien savoir.
Je pense qu'on sortira du mystère à tous les niveaux en écoutant mieux les victimes. Je crois que c'est très important de
que ce soit dans le domaine du génocide ou dans le domaine des crimes sexuels.
Dans tous les domaines. Ouais. C'est les victimes qui doivent prendre la parole.
Ça peut être la leçon ultime.
Je crois que c'est la leçon profonde
de ces drames que nous avons parcourus. Un grand merci à vous deux. Je remercie Laurent Larcher pour avoir participé à cette émission. Laurent Larcher, journaliste à La Croix, qui a publié plusieurs livres sur le Rwanda, dont le dernier, Papa, qu'est-ce qu'on a fait au Rwanda ? La France face au génocide, c'est publié aux éditions du Seuil. Et je rappelle le titre de vos deux livres précédents, Rwanda, il parle, témoignage pour l'histoire, c'était au Seuil en 2019. Et aux arènes en 2023, Souviens-toi, mémoire à l'usage des générations futures, avec le général Jean Varret. Je remercie également Annette Becker, historienne, co-directrice du livre chez Gallimard, Le Choc, Rwanda 1994, le génocide des Tutsis. Et puis je rappelle également le titre d'un de vos derniers livres, Annette Becker, Des Juifs trahis par leur France, 1939-1944, chez Gallimard. On a vu, on a entendu de votre part ce parallèle entre le nazisme allemand et le nazisme tropical, comme on dit. Un grand merci à vous deux pour la qualité de vos réflexions. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Et nous vous remercions pour votre fidélité. Évidemment, nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Un grand merci à vous tous.